suis ravie de vous retrouver, de retrouver ou de rencontrer, de découvrir des personnes présentes, les autrices présentes. Donc je vais très rapidement dire deux, trois mots au sujet de leur livre, et puis ensuite on entrera. Mais peut-être, je me suis fait cette remarque, le puzzle. Ce mot, cet exercice, c'est intéressant. J'ai réfléchi à qu'est-ce que ça me disait, et peut-être ce que ça vous dit à vous. C'est un exercice qu'on offre comme petit jeu éducatif, d'accord ? J'ai eu ma période de puzzle, il y a très longtemps, et je m'étais donné des sujets très ambitieux, vous savez, des tableaux immenses de 5000 pièces, etc. Et face au puzzle, et ça fait un peu écho à vos livres, face au puzzle, il y a un premier moment qui est l'abattement, j'ai envie de dire, le trop de vide, le trop. Et petit à petit, on avance, on commence par des... Il y a des pièces qui se ressemblent terriblement, puis d'autres qui sont un petit peu singulières, et petit à petit, on construit comme ça cette forme définitive. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait du puzzle après ? Je ne sais plus ce qu'en sont devenus les miens, en fait. Et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est en fait c'est la construction... C'est le chemin, beaucoup plus que le résultat, même si on est fier du résultat. Je laisse cette réflexion à votre méditation. Voilà. Qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est le livre fini ou est-ce que c'est le chemin qui a conduit au livre ? Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, très rapidement, alors, Anne-Poly, bonjour. Ravie de vous retrouver. On s'était vu à la fête du livre de Bron, c'était avant la catastrophe. Voilà. Vous avez reçu le prix Sommer à cette occasion-là, et depuis, votre livre a été couronné par le prix du livre Inter, et je pense que vous en êtes fiers, j'imagine, parce que c'est un prix de lecteur, comme le festival est un festival de lecteurs ici. Hein.
Voilà.
Ça, c'est important de le dire. Alors, vous êtes journaliste. Avant que j'oublie, est un premier roman. Sur le contexte d'écriture, peut-être on en parlera, mais ce n'est pas l'essentiel. Par rapport au sujet, j'ai envie de dire que c'est effectivement... donc ça part de la mort du père, hein, la narratrice qui s'appelle Anne Poly, et le père s'appelle Jean-Pierre Poly. Voilà. Donc par rapport à ce que ce texte doit à votre expérience, on pourra éventuellement l'évoquer, plutôt demain, je dirais. Et ça commence à la... au tout début, donc après la mort à l'hôpital, on se retrouve avec le frère dans la voiture, etc. Et le texte va consister à, par des allers-retours d'ailleurs, hein, entre le présent de l'enterrement, du vidage de la maison, etc., de revenir en arrière pour justement essayer de reconstituer qui était cet homme, en fait, dont finalement l'image qui était renvoyée était peut-être une image univoque. Ne rendant pas grâce à tout ce que cet homme était, voilà, et notamment à une part un peu cachée, même carrément cachée, plus délicate, plus poétique, plus sensible, voilà. On y reviendra évidemment tout à l'heure.
Un puzzle incomplet.
Voilà, tout à fait. Et on verra par rapport à la construction du puzzle, c'est que c'est une reconstruction partagée aussi, collective, puisque certaines pièces et certaines révélations, notamment à la fin du texte, vous viennent
de l'extérieur.
De l'extérieur. Voilà. Donc, la mémoire d'un individu est complexe et il faut peut-être plusieurs éclairages pour en reconstituer justement la complexité. Oui. Voilà. Je vais passer à notre invité, qui, je ne dis pas qu'il vient d'Allemagne parce qu'elle vit en France, en fait. Hein. Bettina Wolfrat, oui, vous êtes...
Allô ? Oui, c'est celui-là.
Vous êtes arrivé en France, je crois, il y a 30 ans. Hein, oui, voilà. Vous pensiez rester 2 mois, et puis ça s'est prolongé. Donc peut-être
prolongé,
dire que vous avez fait des études de germanistique, de sciences du théâtre et du film, donc un intérêt pour l'image. On y reviendra, puisque dans votre texte, il est question d'une image, enfin de tableau. Vous avez beaucoup écrit sur l'art, je crois. Oui. Donc actuellement, vous êtes correspondante, vous écrivez des articles sur l'art.
J'écris pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc sur l'art, sur des expositions, et sur le marché de l'art, en France. Donc j'écris pour les Allemands, sur la France, voilà.
Quelle est la dernière exposition que vous avez relatée ?
C'était Victor Brauner au musée d'art moderne du Palais de Tokyo à Paris. Et donc je viens d'écrire l'article, il n'est pas encore paru, mais voilà, c'était... encore un de ces... Parce qu'en ce moment, il y a quelques expositions qui sont vraiment intéressantes pour des artistes qui ont été très connus dans leur période. Par exemple, Otto Freundlich, Et il y a Victor Braona qui ont une grande carrière autour de la première moitié du XXe siècle et qui était un peu tombé aux oubliettes. Et donc Paris rend hommage avec des rétrospectives en ce moment, donc qui sont vraiment très importants aussi pour le côté Allemagne. Donc ça, ce sont des sujets que je propose et j'ai vraiment envie de faire connaître ces expositions-là en Allemagne.
Alors, il y a déjà un point commun entre vos deux textes, puisque dans votre roman qui s'appelle Le Leg de Wagfall.
De Wagfall, oui.
Wagfall's Erbe,
oui.
J'essaie de le dire en allemand, que je n'ai pas lu, je suis désolée, puisqu'il n'est pas traduit, je ne lis pas l'allemand, voilà. Et j'en suis tout à fait navrée.
Il y a beaucoup dans cette salle, oui, qui n'ont pas eu la possibilité parce que c'est en allemand. Oui.
Alors, cela dit, le festival fait très bien son travail et on m'a envoyé un résumé argumenté par vous, fourni par vous d'ailleurs, et puis des articles de presse qui sont parus puisque votre livre est paru en 2019 en
c'est
allemand.
C'est ça. Voilà. Mm-hmm.
Alors, très très rapidement, mais on y reviendra, on creusera cette question-là. Je disais une relation père-fille puisque votre personnage, c'est une jeune femme, elle s'appelle Caroline. Jeune, je ne sais pas, peut-être pas si jeune que ça.
Oui, pas si jeune que ça, parce qu'en fait, elle va sur les traces de sa famille, notamment de son père, parce qu'elle retrouve effectivement un legs, elle retrouve un manuscrit, elle retrouve une peinture dans la maison familiale. Donc, il y a aussi une histoire de maison familiale qu'on a en commun avec Anne. Et ensuite, elle va sur les traces de son père et sur une histoire, effectivement, que le père a occultée, une double vie qu'il a vécue pendant l'occupation à Paris, l'occupation des nazis, des Allemands à Paris. Et donc, il y a le récit lui-même du père qu'elle est en train de taper dans l'ordinateur. Donc, le lecteur le lit. Et puis, en même temps, il y a elle qui va sur les traces de son père et qui essaye de savoir où est le vrai, où il y a le faux, qu'est-ce qu'il a raconté de cette partie-là de sa vie, qu'il a gardée en secret.
C'est une période très particulière dont on n'a pas fini de parler et à propos de laquelle on n'a pas fini d'écrire, je pense. Peut-être, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez commencé à penser ce texte, à faire des recherches, parce que j'imagine que votre texte est très documenté, sur à la fois le marché de l'art.
C'est ça, parce qu'en fait, l'histoire amène après, sous l'occupation, en fait, le personnage principal, ce père que découvre la fille tardivement, a eu une double vie en tant que faussaire. Donc, c'était un peintre, effectivement, très talentueux, mais qui n'a jamais réussi à devenir vraiment peintre. Et puis, pendant cette période un peu trouble, il a continué à travailler en tant que faussaire, en tant que quelqu'un qui fait des copies. Et cela l'amène dans la scène du marché de l'art sous l'occupation et donc aussi dans le milieu de la spoliation des œuvres d'art. Et donc il voit ça quelque part en première ligne et il en parle dans son manuscrit des décennies plus tard, donc peu avant sa mort, où il veut faire ce legs, il va narrer, il va raconter cette histoire. Et c'est une sorte de autofiction ou une fiction subjective parce qu'on ne sait pas trop, il est faussaire, est-ce qu'il dit la vérité, qu'est-ce qu'il raconte, mais il essaye en tout cas de raconter sa vie et probablement c'est la vérité qu'il essaye de raconter. Voilà.
Alors effectivement il est faussaire, donc il travaille avec des marchands d'art et il fait des faux courbés, des faux... cette histoire
des faux matises, voilà,
sur le marché de l'art en France à cette époque-là. Je vous le disais tout à l'heure, hier soir plutôt, il y avait une exposition très intéressante au mémorial de la Shoah qui révélait effectivement comment c'est, en fait, le marché de l'art a continué dans cette période trouble et des gens y ont joué un rôle. Peut-être après, ils se sont refait une virginité, mais voilà, c'est une période tout à fait intéressante. De dire que
c'était un marché de l'art florissant.
Ah, mais oui, tout à fait.
Absolument florissant, parce que du coup, il y avait quand même... En fait, c'était extrêmement cruel, d'une certaine manière. Les Allemands avaient déjà, avant de rentrer quelque part en tant que force occupante en France et à Paris, ils avaient déjà listé toutes les collections des Juifs. Ils ont vraiment essayé de cerner ces collections. Ils ont édicté des lois pour pouvoir récupérer ses collections. Donc, du coup, le marché de l'art, il a été afflué par des œuvres d'art qui avaient une valeur, parce que ceux que les Allemands ne voulaient pas garder pour eux, ils les mettaient sur le marché de l'art. Et après, il y avait aussi des musées allemands qui essayaient d'acheter sur le marché de l'art en France. le franc était complètement dévalué par rapport à la D-Mark. Donc tout le monde venait, aussi des États-Unis d'ailleurs, hein, tout le monde venait pour s'approvisionner quelque part ici à Paris. Et puis effectivement, il y avait toute une partie sombre, vraiment très très sombre, parce qu'après il y avait des galeristes juifs qui devaient partir, il y avait des galeristes français qui ont repris les galeries laissées par les juifs, donc bon, voilà, je le fais bref, hein, c'est une très très grande histoire.
On reviendra sur votre personnage et puis sur qu'est-ce qu'elle en fait de ce legs, votre personnage, on y reviendra tout à l'heure. Donc alors, autre guerre dans le roman d'Isabelle Maillot, Une longue nuit mexicaine. Alors moi, j'ai découvert, en fait, j'avoue que ça m'avait un peu échappé, cette histoire de la valise mexicaine. Donc, c'est aussi une histoire connue. Je vous laisse peut-être en dire deux mots, Isabelle.
Oui.
Alors... Peut-être dire que vous êtes journaliste. On a trois journalistes ici. Hein, c'est curieux.
Oui, alors la valise mexicaine, c'est le nom qu'on a donné à plusieurs boîtes qui contenaient des milliers de négatifs de la guerre d'Espagne, de trois photographes... Taro, Kappa et Chim, et qui ont été retrouvés en 2008, je crois 2007, à Mexico, au Mexique, chez un monsieur qui en fait en avait hérité de sa cousine et qui vivait avec depuis une bonne trentaine d'années. Voilà.
Que contenait cette valise ?
Donc c'était des négatifs de photos qui avaient été prises pendant la guerre d'Espagne par ces trois photographes, qui avaient été mises en commun probablement par l'un d'entre eux et qu'on pensait avoir disparu qui avaient disparu de fait depuis près de 80 ans.
Alors vous avez transposé cette histoire avec des personnages qui ont réellement existé, que vous déplacez un petit peu. Alors le légataire, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Donc c'est un homme jeune encore, j'ai envie de dire. Et le texte commence par l'accident de la route qui cause la mort de sa cousine, Greta. Et un personnage que j'ai trouvé très cinématographique, Greta. Il y a un côté un petit peu romanesque. L'accident de la route, elle est avec un amant. Enfin voilà, c'est un petit côté cinéma. Et en fait, il est très étonné de ce legs. Je voudrais qu'on fasse son portrait à cet homme. Il est très embarrassé. Il a une petite vie. Il est cinéaste. Alors, c'est intéressant parce que votre personnage est photographe. Curieux que ces deux enquêteurs aient un rapport à l'image. Bettina.
Oui, la fille, effectivement, Caroline, qui va sur les traces de son père, est photographe. Et donc, elle fait une série de photographies pour de sa recherche, en fait. Hein, ouais.
Alors, je reviens. D'ailleurs, votre personnage, il n'est pas nommé tout de suite. En tout cas, sa cousine lui donne un surnom qui ne doit pas être très flatteur. Je ne sais plus, c'est
Ramon. Ouais. Ramon, oui.
D'accord. Okay. Ça veut dire jambon, hein, c'est ça ? Ouais, d'accord.
C'est, en fait, je suis partie du vrai nom de ce vrai monsieur qui s'appelait Benjamin Tarver, qui est mexicano-américain. Ouais. Et oui, j'ai transformé Benjamin en Ramon. Voilà, c'est une transformation qui s'est faite comme ça. Mais de fait, on est quand même souvent surnommé par notre famille de prénoms qui sont, de surnoms qui sont pas forcément toujours flatteurs et finalement qui sont quand même notre identité.
Alors, si j'ai bien noté, il est cinéaste de court-métrage, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il a fait quelques court-métrages. Oui, un peu de... Oui, c'est ça.
On ne peut pas dire qu'il tutoie le succès tous les jours ?
Non, puis il est assez solitaire. Mais pour moi, ça a vraiment été le point de départ, ce narrateur.
Ouais. Excuse-moi, ce qui m'a fait rire, c'est que sa femme est partie, enfin, elle a quitté pour épouser un producteur. Elle s'est dit, c'est mieux du côté de la production.
Oui, bon, c'est le choix de cette femme qui la regarde, mais non, c'est vrai que ce narrateur, c'était le point de départ vraiment du roman, parce que c'est ce qui m'a frappé quand j'ai entendu parler de cette histoire. Évidemment, les négatifs, ils évoquent comme ça beaucoup d'images quand on lit l'histoire pour la première fois, mais ce qui était vraiment intriguant pour moi, c'était d'imaginer ce monsieur vivre avec les photos... c'est vrai, quand on connaît pas leur importance historique, pour les avoir vus en exposition sous vraiment la forme de négatif, c'est vrai qu'on peut passer à côté. Donc c'est aussi l'idée de qu'est-ce qu'on donne comme importance à des objets. Et puis il y avait lui, son attachement sentimental, bien sûr, parce que ça venait de sa cousine. Ça, c'est quelque chose que j'ai repris de l'histoire telle qu'elle a vraiment eu lieu. Et qui se retrouve le légataire par erreur, par hasard, on sait pas très bien, de ce qui devient pour lui en fait un peu un fardeau. Et pour moi, ça, c'était vraiment ça l'histoire. C'était évidemment autant la trajectoire que la valise, de la valise entre l'Espagne et le Mexique que vraiment la solitude de cet homme et le souvenir émerveillé de sa cousine et qu'est-ce qu'il pouvait faire de ça en fait.
Effectivement, je trouve que vous le décrivez comme un confident. Il connaît beaucoup de choses de la vie de sa famille. Il connaît beaucoup de choses de sa cousine et il y a une relation très forte entre deux qui est assez touchante, je trouve, dans le texte. Alors, l'enjeu du roman, c'est effectivement, c'est pas tant, puisque à la fin du texte, ça va être révélé, quoi, les négatifs et tout. C'est surtout la trajectoire, hein, je trouve, et qui va vous permettre. Donc, il y a une enquête qui est menée, qui est de se dire, mais. Par où est passée cette valise, en fait ? Qui ont été les dépositaires qui ont fait qu'elle a mis si longtemps à réémerger ? L'enquête, elle est là, en fait. Elle est à travers plusieurs personnages. Et j'aimerais que vous nous disiez comment s'est reconstituée, justement, cette enquête. Et que signifient ces personnages par rapport à cette histoire-là ?
Bah, oui, l'idée, c'était de remonter, de partir du moment où le narrateur devient dépositaire de la valise. Et c'est lui qui remonte le fil. Alors, évidemment, il sait beaucoup de choses de l'histoire de sa famille et de l'histoire de la valise parce que ça m'arrangeait bien pour écrire l'histoire. Il y a des moments où, bon, franchement, il sait des choses qu'il ne pourrait pas vraiment savoir. Mais enfin, c'est le plaisir d'avoir un narrateur qui écrit à la première personne. C'est aussi... voilà. C'est parfois, très commode. On est sur la frontière un peu avec le crédible. C'est comme ça. Et donc, on remonte avec lui les différentes personnes qui... on remonte dans le temps à l'envers, c'est-à-dire jusqu'aux trois photographes, dont l'un des trois est un personnage du roman. C'est Chim, qui est le moins connu des trois. Enfin, le moins connu, il a été un grand photographe, mais c'est vrai qu'il a cofondé l'agence Magnum avec Kappa. Mais c'est celui des trois qu'on connaît finalement le moins. Gerda Taro, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs romans qui ont été écrits sur elle ces dernières années. C'est incroyable.
Chim était libre, donc vous l'avez pris.
Oui, non, enfin bon, on réfléchit quand même, heureusement pas comme ça quand on écrit un roman. Mais non, j'étais très émue de voir que Taro, elle inspirait d'autres romanciers et que c'est arrivé à peu près dans les mêmes années. C'est très curieux. Voilà, donc l'idée c'est d'arriver jusqu'au photographe en remontant dans plusieurs époques et à travers les différentes personnes qui ont été à un moment propriétaires de cette valise.
Alors, dans une, on va s'arrêter un peu sur la guerre d'Espagne parce que c'est quand même un moment tout à fait intéressant. Dans une interview, vous dites, vous vous rappelez que c'est la guerre des écrivains en fait, la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que traverse Hemingway, Malraux, Orwell notamment, et sans doute d'autres. Mais ce que votre. Donc, ça veut dire que c'est une guerre qui a vraiment attiré l'attention de ces témoins que voulaient être ces écrivains-là. Mais ça veut dire que c'est aussi une matière d'écriture assez forte. Mais moi, votre livre nous dit aussi que c'est la guerre des photographes. Vous le rappelez, je trouve. Peut-être, alors, s'il y a hommage, il me semble que l'hommage, il est quand même à ces trois personnages de photographes. Et peut-être, j'aimerais que vous rappeliez ce qu'ils ont apporté de nouveau, ce qu'ils ont inventé pendant la guerre d'Espagne.
Oui, ces trois-là, c'est vraiment donc Kappa, Taro et Chim, c'est vraiment eux qui ont pour la première fois été photographes de guerre au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont couvert un conflit et qui ont couru derrière les gens en train de se battre, mais avec un appareil photo. Donc ils ont été les premiers à le faire comme ça. Donc oui, il y a quelques chapitres qui sont consacrés à cette histoire-là, oui.
Dans un entretien aussi, on entendait le propos suivant, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi ouvert la voie à des choses qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est-à-dire le sensationnalisme, la une, la couverture qui alors je lance une question, mais je ne tranche pas. Hein.
Oui, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, les négatifs, ils permettent, quand on les a retrouvés, et bien sûr, il y a des conservateurs, donc c'est le métier de les étudier précisément, ce qui était intéressant, c'est de voir que, d'abord, tout n'avait pas du tout été publié, contrairement à ce qu'on peut croire, et surtout, c'est l'utilisation qui avait été faite à des fins de propagande, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il y a une photo de Chim, je crois, d'une femme qui regarde le ciel et qui a été publiée dans un journal comme si c'était pendant un bombardement, alors que ce n'était pas le cas du tout. Donc eux, ils ont tous les trois fait, à mon sens, un travail. Bon, Chim, du coup, j'ai étudié un petit peu mieux son travail. Ils ont fait un grand travail de documentaire qui n'était pas du tout, justement, qui était pas du tout spectaculaire. C'est vraiment la façon dont ces photos ont été utilisées et publiées qui en a fait quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Les photos en première page, avec oui, le côté spectaculaire qui est censé attirer le lecteur et donc faire plus de ventes. Mais c'était pas, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas le cœur du tout de leur travail à aucun des trois.
Alors, Bettina, dans votre, je voudrais revenir sur cet aspect de vos deux textes où finalement vous mêlez des personnages de fiction et des personnages réels. Et dans votre roman, il y a la figure de Rose Valland qui intervient. Mm-hmm. Et donc, vous donnez à votre personnage, Victor Isidore, comment est-ce qu'on doit l'appeler ?
En fait, oui, il a les deux noms. Hein. Il vit une double vie. Et il se donne effectivement pour chacune de ses vies. Donc, le Victor Wagfall, c'est le personnage officiel. Et puis, Isidore Schweig, c'est le personnage qui le faussaire. Voilà. Et il se donne ce nom d'artiste, en fait. Hein. C'est un Künstlername, un nom d'artiste. Hein. Mais effectivement, ce qui est un peu dans les puzzles de vie, un peu en commun avec votre roman, c'est aussi le fait de mélanger des personnages historiques qui ont véritablement existé, sur lesquels j'ai fait des recherches, comme vous aussi, sur vos personnages. Et après, il y a des personnages fictifs. Donc là, effectivement, il y a des... Et puis, on a travaillé certainement toutes les deux très longtemps sur la documentation. Et ce que je trouvais intéressant aussi, j'ai vu à la fin de votre livre, vous vous dites, j'ai commencé le roman quand je suis tombée sur, je ne sais plus quoi, en 2010, vous êtes tombée...
Oui, un article, oui.
Un article, voilà. C'est ça, qui a parlé de la valise mexicaine, oui, je crois. Hein. Et comme ça, il y a une espèce de déclic, hein, j'imagine, pour chaque auteur, il y a un moment qui le déclic, pourquoi il commence un roman à ce moment-là. Parce qu'il y a des sujets qui taraudent, hein, donc qu'on a en nous, qu'on a envie de dire. Pour moi, c'était très longtemps une histoire, effectivement, de famille, de mettre quelque chose dans cette période-là à Paris, mais je savais pas comment le mettre, dans quel Paris, donc avec quoi le lier, où est le point qui pourrait m'intéresser autant que j'ai envie pendant 2-3 ans de bosser dessus. Et donc, moi, c'était un peu pas un article, mais c'était un livre. Je suis tombée sur un livre qui parlait justement de la spoliation des collections juives. Hein, et c'était là où je me suis dit, là, je tiens le sujet qui me passionne et qui a été pas connu du tout dans le grand public. Et donc, c'était en 2010 aussi que je suis tombée sur ça. Bon, après, ça prend son temps, tout ça. Et après, pareil aussi, il y a du coup la presse qui s'en empare parce qu'il y a des événements. Il y avait l'histoire de la collection de Gurlitt, de Hildebrand Gurlitt, qui a été trouvée à Munich. Donc du coup, on a parlé de la spoliation des œuvres d'art en Allemagne, en France, un peu partout. Et puis il y avait les films de George Clooney, Monuments Man. Voilà.
Alors Rose Valland, peut-être, oui. Sur le lien entre Victor et Rose Valland.
Oui. Alors Rose Valland, ça c'était un des personnages, donc pas fictifs. Une dame, comment je peux la décrire rapidement ? Elle était historienne d'art. Elle a travaillé pour le Louvre avant la guerre. Elle travaillait avec Jacques Jaujard, qui était le directeur du Louvre, et elle était responsable de la collection. Des artistes contemporains des pays comme aujourd'hui le Palais de Tokyo, je dirais, hein, les collections des jeunes artistes qu'on mettait dans le jeu de paume, hein, dans le musée du jeu de paume qui faisait partie du Louvre, hein, à l'époque. Et donc quand les nazis sont venus et ils ont commencé à piquer les collections juives, il y avait tellement d'œuvres qui arrivaient dans l'ambassade allemande. L'ambassade était en train il y avait trop d'œuvres, donc il fallait trouver un endroit où les mettre. Et donc les Allemands se sont dit, le jeu de paume, il est quand même assez bien situé au milieu de Paris, un peu sur une espèce de terrasse, on peut bien le fermer. Toutes les institutions, administrations importantes allemandes étaient juste autour, donc c'était très très, très bien. Et donc ils ont fait une sorte de centre de tri dans le jeu de paume. Et là, il y avait Rose Valland avec sa petite collection des œuvres d'art contemporain. Et puis on a mis toute cette collection-là dans la cave. Et finalement, Rose, elle a pu rester. Donc il y avait une petite négociation, on l'avait virée d'abord, et après les Allemands, ils ont dû se dire, ah bah c'est pas trop mal, on a une Française là sur place.
Elle peut être utile.
Elle peut être utile. Et puis, il fallait, en plus, Jacques Jaujard, il a dit, bon, mais moi, je veux quelqu'un sur place qui garde quand même notre collection, qui a la cave. Et ce que Jacques Jaujard savait, ce que tout le monde côté France savait, c'est que Rose Vallant parle allemand. Mais les Allemands ne savaient pas qu'elle parle allemand. Et donc, elle ne leur a pas dit, évidemment. Et donc, elle est restée là en tant que... espionne, hein, quelque part. Une espionne qui n'a pas vraiment choisi d'en être une, mais qui est tombée dans cette histoire-là, et qui aimait suffisamment l'art, et qui voyait ce qui se passe, et qui s'est dit, bon, là, il faut que je reste sur place. Et donc, elle a, pendant 4 ans, quand même, elle a eu une place vraiment pas commode, hein. Elle a essayé de tout documenter, ce qu'elle voyait passer au Jeu de Paume. Elle a piqué dans les corbeilles les copies carbone, des listes, parce que les Allemands, ils adoraient faire des listes, hein, ça, vous le savez. Et donc, ils faisaient évidemment des listes bien particulières et bien précises de toute œuvre qu'ils ont piquée, donc avec photos, machin, donc il y avait tout un... Voilà. Et puis, donc, elle essayait le soir de mémoire de tout noter, elle rendait compte à Jacques Jaujard. Et donc, elle avait cette place-là, et c'est un personnage vraiment ouais, que je trouve admirable, une femme extrêmement forte. Et donc, c'était au péril de sa vie, parce qu'à la fin, en plus, quand ça allait vers la fin, les Allemands, ils avaient effectivement un plan de la... l'éliminer, parce qu'elle savait trop. Elle savait qu'il y avait 21 000 œuvres d'art qui sont passées par là, où ils sont allés, elle savait les dépôts, parce que toutes ces œuvres sont parties sur les rails du train vers des dépôts en Autriche, en Allemagne, vers la frontière tchécoslovaque, etc. Et elle a réussi quand même, finalement, ils ne l'ont pas tuée, elle est restée dans le Jeu de Paume jusqu'au dernier moment, il y avait la ligne de front qui passait à côté. Et elle est restée avec 2 gardiens français, je crois. Elle a gardé tout ça. Et puis, après la guerre, elle est devenue là... elle a eu en plus un grade au militaire. Elle avait un poste pour récupérer les œuvres d'art du côté Allemagne.
Ça a duré très, très longtemps.
Très, très longtemps. Elle a travaillé jusqu'à sa retraite, de fin des années 70, je crois. Et donc, avec les Américains, avec les Français, avec les Anglais, elle a travaillé dans cette récupération d'art, un peu comme les Monuments Men. D'ailleurs, dans le film Monuments Men, il y a une Rose Vallant, mais complètement défigurée de la réalité. Elle n'est pas tombée amoureuse de Matt Damon ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle était déjà homosexuelle. Donc, bon, donc, mais ça, effectivement, il en fallait pour le public américain. Et donc, voilà. Donc, c'était une femme vraiment, vraiment merveilleuse, ouais.
Alors, que vient faire ce faussaire dans une amitié avec une femme, elle est prise de vérité?
Oui, mais Victor Wagfall, Isidore Schweig, il était avant la guerre déjà à Paris. Donc, en fait, oui, c'est un long roman de 440 pages, donc il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, avant l'occupation, parce qu'il y a toute son histoire qu'il raconte, en fait. Donc, en 36-37, il est déjà en France à une époque où il veut vraiment devenir peintre. Et il fait un peu, il copie quand même, parce que tout peintre qui devient peintre copie quand même, parce que pour devenir peintre, on commence quand même par copier. Et après, on devient faussaire parce que peut-être on peut gagner un peu d'argent avec, ou voilà. Et puis lui, il avait un très grand talent de celui qui sait très bien copier, se mettre dans l'âme du peintre et puis vraiment le refaire. Donc il rencontre Rose Vallant déjà en 1936, et comme Rose parle allemand, voilà, ces deux deviennent carrément des amis. Et puis après, bon, c'est un peu compliqué maintenant de pouvoir raconter, un peu trop long, mais ils se retrouvent comme ça aussi pendant la guerre. Et la guerre, c'est quand même toujours une période d'exception où il y a la ruse aussi parfois, il y a l'amitié, la ruse, il y a des intérêts. Et donc il y a un petit groupement d'intérêts qui se forme entre Isidore Schweig, alias Victor Wagfall, et Rose Vallant. Voilà.
Alors, je reviens vers vous, Anne-Poly. On a eu des échos de deux situations extraordinaires. Et il me semble que vous n'êtes pas du tout dans, cette, dans ce cas de figure-là. On est dans l'ordinaire, au contraire. Hein. C'est-à-dire que demain, on parlera des échos chez les lecteurs des personnages, mais ce personnage de père, il n'a rien de spectaculaire. Mais voilà, quoi. Alors, l'ordinaire, moi, j'ai évidemment... Bettina parlait des listes. Il n'y a pas que les Allemands qui aiment faire des listes. Il y a aussi des écrivains français... Vous, par exemple. Donc, il y a évidemment, on pense à Pérec. On pense à comment la mémoire, comment la mort nous amène à la mort de l'autre, d'un parent, nous amène à nous trouver face à tout un inventaire à faire. Voilà. Donc, on est à la fois dans l'ordinaire et puis dans l'émotion très très forte, quoi. Ouais.
Oui. Alors, peut-être qu'un des prétextes pour ce livre, c'était justement de dire que cet homme ordinaire ne l'était pas tant que ça, et de finalement faire de cet ordinaire quelque chose de tout à fait rocambolesque, alors que ce qui se passe dans le récit cadre, si vous voulez, le tour du puzzle, c'est quand même des choses très très ordinaires. C'est le croque-mort, l'enterrement, le curé, etc. Bon, voilà. Vider la maison, trouver les objets. Et donc, c'est comment rendre justice et porter mémoire, peut-être en faisant d'un anonyme un espèce de héros. Un héros contrasté avec des failles et des grandeurs. Enfin voilà, il y avait voilà, justement passer de l'ordinaire à l'extraordinaire.
C'est vrai que dans un puzzle, très souvent le cadre, c'est des paysages, c'est un peu indistinct, et petit à petit, c'est des pièces singulières qui vont apparaître et qui vont nous encourager à continuer.
Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Et c'est vraiment en l'occurrence. Un livre que j'ai écrit, c'est une écriture associative, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on met une pièce et puis tout d'un coup, la couleur de la pièce appelle une autre pièce et puis tout d'un coup, c'est le détail d'une main qui appelle une autre pièce. Enfin, ça s'est vraiment déroulé comme ça pour cette écriture. Et pour parler des listes, je l'ai dit ce matin, mais je le redis, au départ, ce livre devait s'appeler Les Affaires du Mort. Parce que ce qui m'avait semblé fou dans toute cette histoire, c'est qu'on se retrouve avec des affaires dont on ne sait que faire, en l'occurrence. Quand il y a des tableaux de maître et des choses comme ça, on sait quoi faire avec. Mais quand on trouve des piles et des élastiques et des tubes de Ventoline, on ne sait pas trop quoi faire, ni des listes de courses, tout ça. Et les listes, c'est aussi pour... ça permet de décrire sociologiquement un endroit, un personnage... dire que ce personnage avait dans sa remise ou dans sa cave des bottes de cow-boy, des moulins à café et des crucifix piqués dans une église, tout de suite on a une idée assez précise de qui on a affaire. La liste aussi, c'est précisément faire le constat, qu'est-ce qui reste, et peut-être, parce que c'est assez triste les petites affaires comme ça justement, mais de penser que c'est tout ce qui reste d'une vie, finalement. Il ne reste pas grand-chose. Et donc, finalement, les nommer, ces objets, parfois jouer de leur succession dans une même page, permet de leur donner un relief particulier et de rendre hommage, justement, à ce personnage qui les a touchés, incarnés, aimés, investis sentimentalement. Et voilà.
Alors, je reviens sur ce personnage. Oui, Bettina.
Oui, non, parce que très bien, j'ai lu votre roman, donc voilà, je pouvais le lire parce que je parle français, voilà. Ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, c'était un peu une même expérience que j'ai racontée aussi dans mon roman, qui est un peu autobiographique aussi. C'est effectivement vider une maison. Et c'est aussi un peu, voilà, il n'y a pas que des tableaux de maître, donc il y avait juste un qui était caché. voilà. Mais sinon, l'héros Caroline, elle fait aussi un inventaire un peu comme votre héroïne. Ou héroïne, en tout cas, voilà, personnage, narratrice mm-hmm. exactement. Et elle photographie, en fait, chaque objet, elle prend l'objet et puis elle le photographie le plus neutre possible pour lui donner aussi une grâce, pour lui donner une présence. Donc elle fait comme si c'était une sorte de merveille. Elle fait une très très belle photo des choses.
Des moindres gestes, oui. Du trombone.
Mais qui ont en plus une. Parce que toutes ces choses-là ont quand même une mémoire, non? Donc ils sont extrêmement chargés, je trouve. Ce ne sont pas que des objets. C'est pas juste un rouleau de Tesage Drive. On l'a peut-être vu dans notre enfance pendant tellement longtemps.
Oui, il y a ça aussi.
Il y a ça. Donc, quoi faire avec ? Donc, est-ce qu'on peut jeter ça ? C'est voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On le trie. On a des tas. Voilà, on a des post-it qu'on colle.
salle ou non,
et justement, je parle des différentes difficultés qu'il y a à trier. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école « Je jette tout » la semaine prochaine. Et puis, il y a l'autre école. Et de fait, les difficultés sont multiples. Jeter, donner. Justement, c'est intéressant ce que vous dites sur le... On a vu ces objets exister pendant des années. Et puis, on ne sait pas d'où ils viennent, finalement. Et puis, en les regardant à nouveau, on imagine que finalement, c'est une collection. Finalement, ça faisait partie d'une collection plus vaste.
Ils sont chargés d'émotions, en fait.
Voilà. Hein, et puis, c'est l'incandescence encore. On a l'impression que l'âme, le fait d'avoir touché ces objets, d'y avoir projeté des sentiments ou peut-être des attachements ou des rêves. Voilà. Et c'est un peu si j'ai nos rêves, quand même, ces listes. J'aime bien comparer ça au vide-grenier, ce qu'on trouve dans les boîtes des vide-greniers. Vous voyez, apprenez l'allemand en 15 jours, partez en Thaïlande, changez de vie en 2 semaines. Enfin, voilà, tout un tas de rêves comme ça dont on a la trace en faisant la liste de ces objets.
Je reviens sur l'ordinaire de cet homme, dont on va découvrir qu'il n'était pas si ordinaire que ça, pas si simple. Il y a une dimension sociale, j'aimerais bien qu'on la dise. C'est qu'en fait, on a petit à petit le portrait d'un homme qui a été, frustré, peut-être. En tout cas, sous lequel la société a porté un regard qui n'était pas un regard très amical.
Oui, voilà, ce livre, c'était aussi une tentative de réhabilitation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on sait de son parent ? Alors, on sait ce qu'on en a senti, mais on a aussi les récits familiaux, les récits des autres, et parfois il y a une distorsion entre ce que soi-même on a senti et l'image qu'a porté l'autre dehors, ou bien les récits qu'on a fait de lui. Donc, il me semblait je crois rétablir une forme de vérité de l'intuition, en quelque sorte, entre ce qu'on avait pu dire de cet homme, qu'il était alcoolique, bon à rien, tout ce qu'on veut. Violent. Et j'ai essayé de chercher à savoir qu'est-ce qui avait provoqué chez cet être qui finalement avait une âme de poète. Comment on peut être poète et en même temps se montrer violent et abusif. Et voilà. Et comment on se retrouve avec cette contradiction-là quand on est un enfant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et comment ? Donc j'ai beaucoup cherché à décrire justement ce milieu social où on a un milieu quand même ouvrier, enfin en tout cas modeste, peut-être pas lumpen, mais un petit peu, enfin à une génération de la terre, quoi. Et comment la vie s'empare des temps libres, des rêves et comment elle les broie ? Et comment aller travailler tous les jours et s'asseoir sur ses rêves, ça donne aussi ça, finalement. Et comment la société tolère, pour certains, le goût de la poésie et pour d'autres, non. C'est pour ça que, par exemple, le personnage du père aime les haïkus. Les haïkus, c'est de la petite poésie. Alors, c'est de la très grande poésie, mais c'est aussi, quand on y pense, des miettes de poésie. Voilà.
En même temps, aujourd'hui, le haïku est très valorisé.
Oui, voilà. Mais je dis pas que c'est pas valorisé. Je dis pas que c'est pas important, c'est au niveau de la forme qui est très modeste, finalement.
Tout à fait. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Vous décrivez ce personnage. Alors, d'abord, vous dites à plein d'endroits l'amour qui lie Anne à Jean-Pierre, hein, de manière très forte. Et j'ai envie de dire, plus le texte avance et plus cet amour devient une évidence.
Hein. Bah justement, c'est à mesure que les souvenirs s'éclaircissent et que l'enquête, par les lettres, par les objets, ce que disent les autres, à mesure que l'enquête avance, l'objet s'affine et le personnage ressort dans son essence, en quelque sorte, débarrassé des scories contingentes, enfin du milieu, du contexte.
Il y a un moment très fort dans le texte qui est la lettre de Juliette. Donc, dans l'enquête, la narratrice, elle découvre un carnet, je crois, et où revient un carnet d'adresse, où revient très souvent ce nom-là. Elle entre en relation avec la personne pour la prévenir des obsèques, etc. Et après, elle va recevoir cette lettre. Et pourquoi je dis c'est un moment fort ? Parce qu'il me semble que ça met l'accent sur le fait que quand on est enfant, il y a des choses de son parent qu'on ignore, en fait, profondément. Et quand on les découvre, on se dit, mais vraiment, il m'a échappé quelque chose de cet être-là. Et c'est fascinant de se rendre compte que cette lettre, elle vient vraiment compléter... c'est une pièce maîtresse du puzzle.
Oui, voilà, elle vient en quelque sorte compléter. C'est la dernière pièce. Il y a eu d'abord les frasques. Oui. Ensuite, il y a eu les frasques mémorables et désagréables. Ouais, ensuite, il y a eu les frasques plus drôles. Ouais. Et puis, vient ensuite cette lettre qui vient parler de l'âme adolescente du personnage. Et finalement, de son enfance. Et finalement, c'était un peu la fin de l'enquête. Ça permettait de clore, justement, ce portrait par défaut. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'au départ, l'histoire de la poésie ne survient pas tout de suite. D'abord, il y a les affaires. Tout ça est très sérieux, très concret, très matériel. Et à mesure qu'on va dans l'enquête, cette lettre, justement, apporte une poésie, justement, qui correspond à la poésie fondamentale dont cet homme était fait aussi. Voilà, elle vient conclure dans un torrent de larmes cette enquête.
Alors, il y a l'histoire familiale aussi. Très rapidement, je voudrais redonner la parole à Isabelle par rapport à un personnage dont j'aimerais beaucoup qu'on parle, qui s'appelle Olivia. Mais il y a aussi la relation aux frères qui traverse tout ce texte. J'ai envie de dire aussi... Vous dites que ce père est punk, hein, il y a cette expression-là. Et je dois dire que oui, il y a les phrases, il est extravagant, il fait des choses pas possibles. Voilà. Ça fait partie aussi de sa poésie.
Voilà, il y a ce contraste se joue dans le dérapage qu'il y a entre une certaine construction de la virilité, une attente autour de la virilité, les pater familias, qui sont des hommes productifs et puissants qui mènent leur famille. Voilà. Et puis en même temps, une manière de se rebeller. C'est-à-dire même à cette époque. C'était aussi un retour là-dessus, hein, sur comme il y a une construction de la féminité et des rapports de domination entre mes femmes, il y a une construction aussi de la virilité. Et c'était aussi, moi, en tant que féministe, revenir en arrière et regarder ça sous un autre angle, un angle un peu décalé, comme ça, et essayer de voir ce qui avait été construit dans toute cette histoire. Qu'est-ce qui est du ressort de la construction de la norme, en fait, voilà. Et le contraste vient justement du fait que cet homme ne se conformait pas. Voilà. Donc... la scène que j'aime bien dans ce que la narratrice décrit, c'est un personnage de père qui en plein hôpital circule en camisole d'hôpital avec une jambe coupée et un slip trop grand et qui fait boue à une mamie qui passe. Vous voyez, ça c'est toute la punkitude du personnage. Ou par exemple, avoir un chapeau, parce que c'est chic d'avoir un chapeau quand on vient d'un milieu modeste. Tout d'un coup, on se met à avoir un chapeau. Mais sur le chapeau, on colle des plumes de pie, des plumes de pigeon, des plumes de moineau, toutes sortes de plumes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont souvent assez dégueulasses. Voilà. Et tout est comme ça, finalement. Il y a un contraste permanent. Et finalement, ce regard... comment dire ça ? L'incompréhension enfant à ce que les parents ne soient pas dans la norme, tout d'un coup, se retourne et devient quelque chose de d'admirable, en fait, parce qu'on croit toujours que son parent a été un bon rien, selon le discours qu'on vous a fourni à son sujet, pour découvrir qu'en fait, pas du tout, c'était un gros rebelle qui faisait que ce qui lui plaisait, et que... Alors évidemment, il y avait des dommages collatéraux, mais globalement, c'était quand même... voilà, c'est le retour, le changement d'éclairage, en fait, pour... Et puis c'est très poétique, justement, cette différence entre qui on est, poète, aimant les feux de camp et les clairs de lune, et en même temps... piquer des crucifix dans une église, vous voyez, il y a des trucs comme ça, voilà. Et c'était rendre justice à tous ces contrastes, réhabiliter, voilà.
Alors, Isabelle, donc l'enquête de votre personnage, Ramon, on va l'appeler, hein, c'est ça, le conduit d'abord sur les pas de Maria et puis d'Olivia. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête... qu'on plonge un petit peu dans l'Espagne de cette époque-là. Alors, Maria, c'est celle qui épouse le diplomate.
Oui, Maria, c'est sa tante.
C'est sa tante.
C'est la mère de la cousine qui lui a donné les négatifs. Alors.
Et alors, ce mariage... Je voudrais rendre hommage à votre écriture, d'abord, qui est extrêmement savoureuse, souvent ironique, très foisonnante, très, très dense. Et j'ai adoré le mariage avec le diplomate. Dans un côté un petit peu voilà, en cinéma, je sais pas que ça me ferait penser, mais j'ai aussi eu des images cinématographiques, pas vous?
Oui, si, bah, si, j'écris souvent à partir, ouais. Pas mal à partir ouais. d'images, ouais, ça ouais. vient comme ça. Et alors, le diplomate, il a, qui était l'ambassadeur du Mexique en France et donc pendant la guerre à Vichy, lui, il a vraiment existé.
Ouais. Chez vous, il s'appelle Ortega. Hein, ouais.
Oui, voilà. Et moi, je me suis permise d'imaginer que c'était plutôt son épouse qui, sous des airs de femme d'ambassadeur extrêmement discrète, voire soumise, avait grandement aidé à faire sortir les négatifs d'Espagne. Et donc, j'ai aussi imaginé ce personnage d'Olivia que vous mentionnez, qui est une jeune mexicaine qui est sur le point de devenir médecin, qui part en Espagne au tout début de la guerre pour s'engager et oui, soigner les blessés pendant la guerre, pendant cette guerre, et qui, dans un deuxième temps, sans doute traumatisée par ce conflit, devient peintre. Voilà.
Alors, je reviens sur un tout petit peu sur le diplomate, il m'a beaucoup amusé. Alors, il est en poste à Paris, à un moment donné, juste avant la guerre, je crois, c'est ça. Il aurait pu rencontrer votre personnage, Bettina, hein, dans un vernissage ou...
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
C'est vrai que c'est sympa d'imaginer que nos personnages peuvent se
rencontrer. Ah, oui, en plus, bon, il y a Adèle, il y a une histoire d'amour dans mon roman, et puis donc Adèle, qui est l'amante de Isidore Schweig en 1936-1937, Elle est politiquement très engagée et elle part sur le front en début 37 de la guerre d'Espagne. Elle n'en revient pas. Comme plein de jeunes gens, elle part parce qu'en fait, c'est, tout à l'heure, on parlait aussi, c'était une guerre des intellectuels, comme c'était une guerre pour les intellectuels. Il y avait des intellectuels de toute l'Europe qui venaient quand même, hein, parce qu'ils sentaient que c'est la guerre qui prépare toutes les guerres à venir. Ceux qui étaient sensibles à l'ère du temps, je pense, ils savaient que la guerre d'Espagne, c'est le début.
Je reviens à... Il m'a plu, cet ambassadeur. Quand il est nommé à... Il est un peu punk, lui aussi, j'ai trouvé. Quand il est nommé à Paris, il dit « Oh, ces Européens qui se foutent sur la figure, bien fait pour eux, après des siècles de pillage, c'est sur eux que ça tombe. » Voilà. Un petit côté comme ça, un peu désinvolte. Alors, revenons à Olivia. Voilà. Pourquoi ce... D'abord, j'étais frappée par la manière comme vous plongez vraiment dans cette époque de la guerre d'Espagne. D'abord, elle arrive dans une famille plutôt franquiste, hein, plutôt
oui, parce que
pas trop pro-républicaine, on va dire.
Ouais. Parce qu'elle part très jeune. Ses parents font ce qu'ils peuvent pour l'aiguiller un minimum, parce qu'ils ne sont pas très heureux de sa décision. Donc elle se retrouve, oui, dans la famille qui est quand même franchement... on ne peut pas dire franquiste parce que c'était au début de la guerre, mais oui... ils sont, eux, pas du tout révolutionnaires, on va dire. Et puis, elle arrive à se débarrasser d'eux assez vite et à se rapprocher du front. Et oui, c'est un personnage qui me permettait de faire le lien avec les photographes, puisque j'ai inventé, là, pour le coup, une histoire d'amour avec le photographe Chim. Je crois qu'elle me tenait vraiment à cœur parce que il y a à la fois cet engagement, il y a un engagement déçu en fait chez elle toute proportion gardée évidemment reflétait un peu ce que moi en tant que journaliste, ce à quoi j'avais assisté avec la révolution en Égypte. Et donc je voulais vraiment parler de ce côté on y va par romantisme, on a envie qu'il nous arrive quelque chose et puis après il nous arrive quelque chose et on est blessé pour la vie et on l'a bien, bien cherché. Donc il y avait un côté comme ça et elle transforme ça, cette blessure elle arrive à le sublimer en devenant peintre et donc ça, évidemment oui, c'était un parcours qui m'intéressait particulièrement.
Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que derrière la guerre d'Espagne, il y a aussi l'Égypte.
Il y a pas mal l'Égypte, oui. Oui, oui, parce que bon, il y a quand même des points. Enfin, ça ne sert pas à grand chose de comparer les époques et les pays, mais dans le romantisme, oui, moi j'ai vraiment eu l'impression d'appartenir à une génération de journalistes qui s'étaient précipités aussi à ce moment-là, dans ce coin-là, parce que. Il y avait un idéal d'un régime qu'on renverse, de créer quelque chose de neuf. Oui, un truc très idéaliste que la génération de 68 a connu aussi, qui est de penser qu'on va mettre à terre un ordre social, en créer un nouveau, plus égalitaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et quand derrière, il y a bon, en Égypte une dictature militaire et en Espagne une dictature tout court, qui dure des décennies et des décennies, c'est vrai qu'on peut se demander en quoi on a cru, si on a été bête d'y croire, ou si on a eu raison d'essayer. Et après, on vit avec ces questions-là. Oui.
Donc, et vous vous sublimez par la littérature ?
Alors moi je suis pas égyptienne, donc j'y suis allée en tant que témoin, mais quand même c'est vrai qu'il y a ça, même en tant que témoin on peut se poser ces questions-là. Et oui, bah oui, la preuve c'est que je me suis retrouvée à écrire un roman qui je pensais que c'était le passé, que c'était l'Espagne, que c'était très éloigné de moi, et puis finalement il y avait quand même quelque chose dans ce groupe, dans ce romantisme, des gens qui débarquent comme ça pour assister à quelque chose, oui, qui avait à voir avec ce que nous on avait vécu. Oui.
Vous l'avez écrit après votre retour d'Égypte, c'est ça ?
J'ai commencé, oui, quand j'étais en Égypte, en fait.
D'accord.
Donc ça, okay. Sans doute commencé à transpirer à
ouais,
ce moment-là.
Ouais, ouais. Et donc, pour vous, est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Est-ce que quelque chose de ce que vous avez senti en Égypte, vous avez pu le transposer dans le roman ou
oui,
en tant
alors,
qu'émotion
oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. En Égypte et aussi en Syrie, parce que j'y suis allée. Enfin, avant la guerre, et j'y suis allée aussi pendant la guerre, et donc c'est vrai qu'il y avait ce truc de la guerre. Ouais. Qu'est-ce que, enfin, à quoi ça ressemble le quotidien, et ouais. ça, pour le coup, ça vient de la Syrie aussi. Et oui, je crois que j'aurais pas écrit ces quelques pages-là. Alors bon, c'est bizarre hein, de comparer les guerres, et vraiment je le fais pas, mais oui, je pense que il y a des choses qui changent pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a un quotidien qui perdure malgré tout, et dans ces circonstances qui sont catastrophiques. Mais en fait, cette année, on le voit un petit peu, c'est-à-dire avec une pandémie. Bon, c'est pas une guerre, mais il y a quelque chose de cet ordre-là que tout d'un coup, bah, oui, on continue tout à fait à vivre autant qu'on peut à travers ça. Et donc ça, c'est ce qui, dans la guerre, alors d'Espagne, oui, avec tout le romantisme qu'elle charrie et tous les écrivains qui ont écrit sur cette guerre déjà, il y avait quand même cette idée-là, oui.
Dernière question, puis on reviendra au texte de Bettina puis de Anne sur le legs. Qu'est-ce qu'on fait du legs comment le narrateur se décide finalement à trancher et à transmettre cet héritage
Oui, c'est pas clair.
Est-ce que la littérature a pour fonction d'être totalement claire?
Oui, non, c'est ça. C'est sûr que sinon. Si j'avais voulu y répondre clairement, je pense que j'aurais fait une enquête journalistique sur ce sujet, qui s'y prêtait très bien, en fait, quelque part. Mais je crois qu'il y avait vraiment dans le silence que cet homme a gardé, et aussi dans celui qu'on... parce qu'il y a aussi le silence des photographes, qui ont... Bon, une est morte pendant la guerre, mais deux y ont survécu, et ils auraient eu tout à fait le temps de parler de cette valise, de peut-être même aller la chercher là où elle était... Et ils ont choisi de ne pas le faire. Donc là, c'est vrai que tout d'un coup, quand on est dans le silence, on n'est pas dans le journalisme, on est dans la littérature, ça, c'est sûr. Et alors, quand est-ce qu'il a décidé de la rendre Je ne sais pas. J'aimerais bien lui poser la question.
Il faudrait
l'inviter. Mais peut-être depuis le début, en fait. Peut-être qu'à sa façon très indirecte et très peut-être passive, il a... contribuer à faire en sorte qu'elle ressurgisse à un moment où on avait envie de s'intéresser à ces photos, et que ça aurait peut-être pas été le cas même 20 ans plus tôt. On pourra jamais le savoir. Moi je me dis ça, qu'il a contribué à les protéger finalement en parlant pas, même si c'est un silence qui aurait pu finir par être plus destructeur que protecteur. Oui. Mais...
Quand j'ai affaire à des personnages de romans un peu complexe, justement riche, où il y a plein de silence et puis de zones d'ombre. J'aime bien me demander qu'est-ce qu'ils vont devenir après le roman, qu'est-ce qui leur arrive. Et je me suis demandé, ce personnage, qu'est-ce que ça va changer à sa vie, cette histoire-là, cette enquête sur sa famille, sur sa tante, sur Olivia.
Ouais, c'est une très bonne question. Bah, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ressent quand on termine le livre, par définition, c'est très triste. Mais je pense que pour lui, c'était un peu le sens de la fin, c'est que il y a une réconciliation, c'est-à-dire avec là d'où il vient et aussi ce qu'il est, parce que c'est un personnage qui est un petit peu un petit peu marginal, peut-être presque punk à sa façon, lui
ce
aussi.
Sera le mot
en fait.
De cette
non, mais il y a quelque chose comme ça de très anti-viriliste, enfin, ouais, à l'opposé de ce qu'est le cliché de la masculinité, de ce qu'elle doit être. Enfin, parce que je pense que quand on est un homme, ça peut être vraiment un poids, et c'était ce qui m'intéressait en fait, chez lui. Et donc je pense que, bref, pour toutes ces raisons, ça, dans sa solitude et dans sa marginalité à sa façon, ça le, oui, ce trajet, ça le réconcilie avec ce qu'il est aussi.
Alors, tout à l'heure, Anne, vous disiez que, j'aimerais qu'on parle du titre des romans, vous disiez que ça aurait dû s'appeler Les Affaires du Mort, voilà, ça ne s'est pas appelé comme ça. Je reviendrai vers vous, mais d'abord, Bettina, il me semble que dans un document qu'on m'a fourni, c'était un texte de travail, vous avez... C'est un titre de travail au début, et vous avez gardé ce titre finalement.
Oui.
Voilà. Pourquoi ? Est-ce que ça, il aurait pu avoir un autre titre ?
Oui, c'est toujours compliqué un titre, je trouve. Hein. Même quand j'écris un texte pour le journal, un article, je me dis toujours le titre. Hein.
Souvent, on le trouve à la fin.
Ça dépend. C'est vrai. Ouais. Oui. En fait, la headline, je commence toujours avec la headline parce que ça organise ma pensée. Mais après, le titre, très souvent, ou au moins, je le change à la fin. Hein, donc, et après, il n'est pas pris, hein, de toute façon.
Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui finalement fait un autre titre.
Oui, c'est ça. Donc, parfois, il est pris, parfois, bon, ça dépend aussi de la longueur de place qu'on a. Hein. Mais bon, après, pour revenir au livre, oui, il y a Wackfalls Herbe, c'était effectivement un titre de travail qui n'était pas mon premier titre non plus. Je suis très à cheval, peut-être, sur les titres, je ne sais pas. Et puis après, ben, voilà, on l'a gardé. On a discuté avec l'éditeur, avec le lecteur, avec, voilà, dans le petit groupe. Et donc toutes les propositions qui sont venues finalement, ils n'étaient pas forcément meilleurs. Et puis l'éditeur a tranché, il a dit mais alors si les autres sont pas meilleurs, on garde celui-ci. Et donc on l'a gardé, ouais. Mais c'est vrai que l'histoire du legs, de l'héritage, bon, on est toutes les trois, c'est une histoire d'héritage quand même. Hein. Et je pense qu'il y a, dans les trois romans, il y a une sorte d'apaisement aussi. Le terme est venu tout à l'heure quand vous avez posé la question. J'ai pensé à nos romans et je me suis dit qu'il y a vraiment une sorte d'apaisement à la fin. L'héros ou l'héroïne principale a fait le tour de quelque chose, hein, parce que quand même votre héros Ramon, il garde quand même la valise pendant très longtemps, hein, et il veut pas forcément se séparer. C'est aussi un voyage intérieur qu'il doit faire pour être prête à pouvoir lâcher la valise. Hein. Donc c'est il arrive bien. Quelque part. Hein, il est arrivé chez lui certainement. Quand on arrive quelque part, disons, quand on a gagné quelque chose, il faut toujours faire un don. Donc lui, il fait le don de la valise d'une certaine manière. Hein. Et puis, chez vous aussi, il y a tout un voyage autour de la mort, en fait, hein, de se perdre pour arriver à un apaisement, non
Oui, c'est ça. C'est vraiment. Il s'agit vraiment d'apaisement.
Oui,
tout ce qui tourbillonnait, qui était l'heure de la culpabilité ou de l'irrésolu ou des incertitudes, des doutes, tout ça se trouve apaisé par l'écriture et par le. Enfin, en l'occurrence, là, il y a justement des personnages extérieurs qui viennent apporter leur pierre, quoi. Mais voilà.
Moi, je voudrais remercier Bettina. J'ai un peu honte, on vous a pas lu. Mais vous avez lu attentivement.
Oui,
c'est vrai.
Oui, mais c'est normal. Je veux dire, je me suis dit, mais c'est clair, quoi, parce que effectivement, on ne peut pas lire mon roman en allemand. C'est clair. Oui. Mais je voulais absolument, effectivement, lire vos romans. D'ailleurs, je vais lire plein de romans de ce festival, voilà.
Il y a une dame qui veut intervenir.
Je l'espère. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un éditeur français, mais j'espère. Je suis à la recherche, oui, avec mon éditeur, ouais. Peut-être ce festival apporte un éditeur, j'en sais rien.
Alors, je vais passer la parole. Puis une dernière question, donc Anne, sur le titre. Il est étonnant ce titre, avant que j'oublie, parce que finalement, c'est un texte qui réhabilite la mémoire. Qui parle de justement ne pas oublier, ne pas perdre de vue ce qui a été. Et vous parlez d'oubli dans ce titre. Mais avant que j'oublie.
Avant que j'oublie, alors, je, au départ, ça devait être Les Affaires du Mort. On n'en a pas voulu, l'éditrice n'en a pas voulu. Elle a dit c'est sinistre, ça ne marchera pas. Et puis on ne met pas mort sur une couve d'un premier roman.
Sinon, c'est l'enterrement.
On met Trompe la mort, l'amant des morts, le mort merveilleux, mais on ne met pas Les Affaires du Mort. Et la couverture a beau être jaune Van Gogh, ça ne marche pas. Donc voilà, et avant que j'oublie, ça correspond à la démarche profonde de ce livre, hein, qui était de comme l'esprit est plastique et se dépêche d'oublier les choses désagréables. Avant que j'oublie, c'était aussi ça. C'était avant que j'oublie les détails de toute cette histoire, avant que la mémoire de cet homme anonyme soit emportée dans la masse du grand rien, quoi. Voilà. Avant que j'oublie cette époque aussi, parce que je décris aussi un vieux monde qui est en train de s'écrouler avec la mort du père. Il y a aussi la figuration d'une vieille église un peu branlante, un peu à côté de la plaque, la figuration des protocoles qu'on nous propose pour justement passer ces étapes du deuil qui sont un peu raides et puis un peu ringards aussi au fond quand on y pense, voilà, avec un espèce de mot autour du cercueil qui ça dérape, le curé raconte un truc, ça dérape, tout dérape, donc ça prouve que c'est en train de s'écrouler au fond. Voilà, c'est avant d'oublier ce monde-là, peut-être aussi avant d'oublier les émotions que provoque le deuil. D'ailleurs, ce livre, je l'ai un peu écrit comme un anti-manuel de développement personnel, vous savez, de ces manuels qui vous expliquent, là, qui envahissent les rayons des librairies.
Et comment
qui,
être heureux.
Voilà, trouver du sens en faisant la petite grenouille, enfin, tous ces trucs-là. Relevez-vous de vous être fait plaquer, et en 2 semaines, ça va être réglé. Enfin, voilà. Ce truc de winner là qui prend toute la place et on voilà et c'était justement y revenir, pas mettre ça sous le tapis, en parler longuement et en plus avec des détails, des affaires, des listes, tout ça et aussi ces émotions très contrastées qui sont par exemple la colère qui surgit quand le mensonge autour du bonheur est justement révélé dans ces moments-là, c'est-à-dire une espèce de mensonge général auquel on acquiesce tous quand tout va bien. La crème super qui vous fait rester jeune jusqu'à la fin des temps, la glace qui vous fait jouir, le café pareil, enfin tous ces trucs-là, les promesses de bonheur qu'on voit partout et les injonctions voilà, qui tout d'un coup se révèlent dans toute leur bêtise et toute leur absurdité et la colère que ça provoque. Voilà. C'était pour ne pas non plus oublier ces émotions qui sont fugaces et ne pas non plus oublier la drôlerie qu'il peut y avoir dans la mort aussi. Voilà. Ne pas oublier la déflagration intérieure que ça produit, mais ne pas oublier non plus la manière dont le réel traite ça de manière absurde et ricanante, quoi. Voilà. Comment rire de tout ça?
Est-ce que vous avez lu Joël Egloff?
Probablement.
Alors, il a fait un texte qui s'appelle Ganglion et fils, c'est une société de corbillards.
Oui,
non, en fait, on rit beaucoup. Pas. Parce que le premier chapitre, c'est la litanie de toutes les plaques des tombes. Voilà. À mon grand-père, à mon grand-frère, à ma tante. Et ça dure 2 pages comme ça. Il fait des listes, lui aussi. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour pour parler des choses qui nous touchent profondément, en fait.
Ouais.
C'est là où on en a le plus besoin.
C'est une forme de survie. Enfin, c'est un peu une la palissade de dire ça. Mais par exemple, dans l'écriture de ce texte, justement, il y a des changements de ton. Souvent, on est entre la terrifiante nouvelle de la mort et son absurdité, mais aussi tout un tas de moments comiques. D'ailleurs, l'écriture va avec ça. C'est une écriture assez rapide, qui rebondit très vite, qui ne s'attarde pas. Donc ça aussi, c'est une posture. On parlait de legs et d'héritage. Mais finalement, qu'est-ce qu'on hérite de son parent? Donc on hérite d'affaires, on hérite d'une vision du monde, mais on hérite aussi d'un humour, par exemple. Donc cet humour qu'il y a dans ce livre, peut-être que c'est une manière de restituer ce que j'ai reçu de ce père.
Très bien. Alors, vous avez la parole. Il y a déjà une question sur la traduction. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. On a le temps d'échanger avec nos trois invités.
Peut-être pas forcément des questions, d'ailleurs.
Oui,
peut-être juste des remarques.
Des remarques, ouais.
Des ressentis. Des...
Ah, génial. Alice, comment vous avez dit?
Est-ce que vous pouvez reformuler parce qu'on n'a peut-être pas bien entendu?
Oui, mais madame disait que pendant la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu une photographe qui a été reporter de guerre, enfin qui était sur le front. Voilà, c'est ça. Oui. Une Autrichienne.
Et donc, vous ne trouvez pas qu'on découvre de plus en plus que des femmes ont été là, présentes?
C'est parce qu'on y prête attention, en fait.
Ouais, je crois
plus
aussi.
Simplement.
Ouais. Voilà. On redécouvre une cinéaste, par exemple, des premières cinéastes à l'époque de Lumière. Enfin, alors, il y a une peintre qui s'appelle Marie Morel, c'est pas toute ma famille, je n'ai pas de pub pour, autour de moi. Elle fait une grande fresque qui dure depuis des années, où elle fait des petits médaillons pour reconstituer toute la liste des femmes qui ont compté dans l'histoire de l'humanité. C'est énorme. En fait, c'est sans fin. Bon, c'est des philosophes, c'est des scientifiques, c'est des... voilà. Donc, petite parenthèse fermée.
Ouais. On parlait tout à l'heure du vieux monde qui s'écroule. Ouais. Il s'agit de ça. Ouais. Voilà. De rendre la juste place. C'est maintenant chacun son tour. Maintenant, c'est notre tour.
Voilà. Il y a une question, monsieur ?
Dans l'ensemble, les gens se sont réjouis pour moi, pour ce qui me reste de famille, parce que tout le monde est mort. Ça m'a facilité la tâche, je vous avoue. Les survivants, toute cette histoire, enfin les témoins en tout cas, ont été plutôt contents pour moi, ont été, je crois, peut-être surpris que je veuille porter cette histoire, parce que pour eux, c'était une histoire désagréable, voilà, justement. Et moi, je voulais... qu'on en reparle de cette histoire désagréable plutôt que de faire comme dans les familles, on met ça dans le placard et puis ça ressort trois générations plus tard et on ne sait pas pourquoi et quelqu'un le porte et ça ne se passe pas bien. Après, il y a le personnage du frère. Alors, dans la vie réelle, j'étais fâchée avec mon frère avant la sortie de ce livre. Nous nous sommes fâchés au moment de vider la maison, comme ça arrive dans des tas de familles. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré pas mal de lecteurs et qui m'ont souvent raconté leur propre histoire en me disant qu'eux aussi, ils ont un frère qui était en colère, qui n'était pas d'accord, qui n'a pas voulu, qui s'est fâché. Voilà, donc ça, c'est même pas singulier, finalement, c'est tout le monde. Et il y a même des gens qui m'ont dit que c'était moi, le frère désagréable et con. Voilà, il y a les deux écoles, là aussi.
Le livre, il tend des miroirs à plein de gens.
Voilà, c'est ça. Je m'en suis pas rendu compte forcément. Enfin, il y a des choses dont je me suis rendu compte. Par exemple, on parlait des pompes funèbres, des cercueils. Ça, c'est un truc que tout le monde a vécu. Il y a des films où ça se passe, il y a des livres où ça se passe. Par exemple, je pense à ce film qui s'appelle Les Combattants. Ces deux garçons qui sont fils de menuisiers et qui s'engueulent évidemment chez le croque-mort parce qu'ils vont dire mais on va pas payer ce prix-là, on va le fabriquer nous-mêmes, le cercueil. Bon, voilà, tout ça, c'est très commun finalement. Et non, mais dans l'ensemble, voilà, il y a que pour vous dire la vérité, il n'y a que ce frère dont je ne sais pas s'il a lu ce livre. Mais c'est peut-être ce livre, c'est une tentative de réhabilitation avec le père, mais c'est aussi une tentative de réhabilitation avec le frère, puisque c'est lui qui ouvre ce roman, voilà, et c'est lui qui le ferme. Et c'est lui qui le ferme en portant finalement un peu contre son gré. Il y a une histoire d'oiseau qui s'envole, etc. Contre son gré, la mémoire, c'est-à-dire qu'il porte la fin, quoi. Et donc, c'est dommage qu'il ne l'ait pas lu. Enfin, je ne sais pas s'il l'a lu, mais en tout cas... voilà, c'est aussi... c'est aussi une tentative de réconciliation générale, en fait. C'est-à-dire cette histoire qui nous a tellement divisés, qui a divisé au-delà de nous, qui a laissé des mauvais souvenirs à des tas de gens. Comment on fait pour être en paix avec ça? Et puis, pour le coup, une fois qu'on est apaisé, comme dit précédemment, on peut passer à autre chose et peut-être arrêter de répéter à l'infini les mêmes névroses, les mêmes motifs, les mêmes schémas, etc. Voilà, c'est une sortie de névrose, en gros.
Ça coûte moins cher qu'une psychanalyse ?
J'en ai fait une aussi. Donc, il a fallu les deux, probablement. Et une sortie de névrose, d'ailleurs, on parle de ce personnage empêché, qui aime la poésie, mais qui n'a pas accès, ou très peu. Et finalement, résolution de névrose, puisque moi, j'ai accès à la poésie, même j'écris un livre incroyable. Voyez. Donc,
D'autres questions à nos invités ? Moi, j'en avais une. Oui, allez-y.
D'accord. Alors, au moment où je me mets à écrire ce livre, il y a déjà un cap qui est passé, c'est-à-dire le fond du deuil le plus douloureux est déjà passé. C'est-à-dire qu'il faut 2 ans, hein, globalement, pour pouvoir se remettre debout. Et à partir de là, peut-être se poser des questions. Donc l'écriture n'a pas été douloureuse, au contraire, c'était plus... finalement, c'était une manière de prolonger la conversation, en fait. Parce que ce qu'il y a de pire quand quelqu'un meurt, c'est qu'on ne peut plus parler ensemble. Un lecteur m'a dit ça récemment, m'a dit, mais en fait, c'est comme si vous aviez raconté à votre père quand il est mort. Alors, quand tu as été mort, il s'est passé ça, et alors il s'est passé ça, et ensuite il s'est passé ça, voilà. Donc ça n'a pas été tellement douloureux, c'était vraiment une manière de poursuivre le dialogue, de s'adresser à... En fait, écrire sur un mort, c'est continuer de le faire vivre, enfin, c'est assez simple. Hein. Et en fait, ce qui a été douloureux, c'est de mettre le point final à ce texte. C'est-à-dire que ça... alors j'ai mis 4 ans, ce texte je l'ai commencé en... Je ne sais plus, enfin j'ai mis 4 ans. 2014-2018, voilà à peu près. Et je n'ai pas mis 4 ans péniblement pour écrire 134 pages. J'ai écrit par courte période, brève, avec une espèce d'intensité. Le truc se prépare à l'intérieur et puis tout d'un coup il sort. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le poursuivre. L'esprit est coquin. Par exemple, il vous oblige. Tiens, justement, si je briquais la cuisine plutôt que d'écrire le 4e chapitre, ce serait vachement plus intéressant. Voilà, comment il y a eu des résistances, ça, c'est sûr. Non, mais voilà. Et puis mettre le point final.
Tous des cuisines super propres.
C'est ça, tout est méga nickel. Oui, mettre le point final à cette histoire, ça c'était long. C'est-à-dire que c'est la fin qui m'a posé le plus de problèmes. Et d'ailleurs, cette fin, quand je la relis, c'est un épilogue, c'est écrit épilogue. Enfin bon, je la relis et je me dis ça va pas cette fin. Il y a un truc qui va pas. Mais je vois bien ce qui va pas. C'est tout. C'est, la mort, ça va pas. Ça va pas quoi. Donc j'aurais beau la réécrire à l'infini, ça n'ira pas. Mais il a bien fallu que je mette un point final. Après, pour ce qui est de la douleur, je dirais que je suis contente d'avoir su déposer les chagrins dans ce texte. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, j'ai parfois su déposer quelque chose de très, très dur et très, très émouvant, même encore pour moi-même. Il y a des passages. Bon, je ne me relis pas régulièrement. Hein, mais je sais qu'il y a des passages qui m'arrivent de relire, notamment parce que je suis en situation de relire ce texte sur scène, parce que je fais une lecture musicale de ce texte. Et il y a des passages qui... Il y en a un, en l'occurrence, qui continue d'être douloureux. C'est celui de... Quand la mort s'approche et qu'on sait, l'autre va mourir, il le sait, on le sait, et qu'est-ce qu'on se dit dans l'intervalle, quoi. Voilà. Et ça, c'est des moments qui sont très, très durs. Et je ne me suis pas trop mal débrouillée, je crois. Pour dire que on se tient la main en regardant la télé, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? De toute façon, rien. Donc, voilà. C'est... Ces passages-là étaient douloureux. Et en fait, ça m'a fait quand même... le fait de les déposer comme ça et d'y mettre une forme de poésie légère, voilà. Et je voulais ajouter aussi que quand on perd un proche, il y a une culpabilité très importante qui se fait jour. On n'a pas fait assez, on n'a pas fait bien, on n'était pas là, on a fait n'importe quoi. Enfin voilà, on est très très coupable. Et avoir écrit ce roman, parce que je précise que roman, c'est parce qu'il y a quand même de la compo dans ce livre, c'est-à-dire que un personnage parfois égale deux personnages, ou bien il y a une impression qui donne une situation, mais c'est tout ça est quand même le faut pas superposer complètement la narratrice et l'auteur. C'est voilà, c'est pour préciser ça. Donc on parlait de la douleur, de la culpabilité, tout ça, et donc quand même écrire ce livre, ce roman, m'a permis de me débarrasser de cette culpabilité. Voilà, j'ai porté la mémoire, j'ai porté l'histoire. Voilà, maintenant on est quitte. Il y a une sorte de dette en psychanalyse. Là, voilà. Et alors encore plus fou, c'est que maintenant ce texte vit seul et appartient à d'autres gens, ce qui semble fou, encore plus fou. Voilà.
D'autres questions ? Moi, j'avais une petite dernière pour Bettina. La question du vrai et du faux de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. C'est des sujets très très forts, très importants. En Allemagne, dans votre pays. Oui. Comment est reçu votre livre ?
oui, c'est à vrai dire, déjà, je suis assez étonnée d'avoir des lecteurs qui adorent le livre. Donc déjà, c'est à chaque fois quand on a écrit un livre, je ne sais pas, moi c'est le premier, donc voilà, oui. On ne sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que les gens vont aimer, et surtout, effectivement, ce sujet-là est très délicat en Allemagne, donc j'étais plutôt étonnée que personne dise « Ah, il y a encore un livre sur cette histoire et la culpabilité », parce que évidemment, dans ce roman, il y a aussi question de la culpabilité générationnelle, qui est la part autobiographique dans ce roman, parce que mon père a été à Paris pendant cette occupation, donc il y a une vraie histoire personnelle que je dois aussi quelque part régler, voilà, et puis arriver à une fin un peu plus apaisée. Parce que curieusement, je suis arrivée à Paris, je suis restée à Paris, je suis jamais repartie, donc quel était ma tâche là-dedans. Donc c'était probablement aussi d'aller sur ces traces-là, raconter quelque chose, rendre quelque chose faire quelque chose, voilà. Et puis donc j'ai pensé que les Allemands auraient plus de mal à être rappelés à cette histoire, mais non, pas du tout. Beaucoup de gens d'ailleurs disent qu'ils savent pas autant sur notamment la manière comment l'occupation s'est passée en France. Parce qu'il y a aussi des légendes un peu en Allemagne, que voilà, l'occupation était très très sympathique finalement, les Français et courtoises, tout à fait. Les Français étaient majoritairement d'accord. Et puis bon, on essaye quand même de voilà, encore aujourd'hui parfois, c'est pas vraiment dit, mais ce sont des non-dits, c'est quelque chose qui reste en trame de fond. Et je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit c'était extrêmement brutal, il y avait cette sorte de préméditation aussi matérielle qui encore pour les Allemands parfois sont des découvertes, c'est-à-dire que c'était vraiment que la spoliation des œuvres d'art, c'était pas juste quelques œuvres d'art ou pas, que c'était vraiment une affaire de vol hautement organisée, hautement hiérarchisée et hautement planifié, et c'était une affaire d'État. Et donc, je pense que cette prise de conscience est en train de se faire, et le roman, il est une manière peut-être de, non théorique de s'approcher à ces histoires-là aussi, hein, de manière plus plaisante en lisant un roman.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, sinon, on va remercier nos invités. Merci beaucoup pour ce texte. Les romans sont en vente et elles vont se faire un plaisir de les dédicacer, n'est-ce pas?